Bonjour, nous sommes réunis pour la seconde fois dans le cadre de cette émission qu'en tant que postulateur de la cause de l'abbé Guérin, nous lui consacrons pour mieux le faire connaître et montrer quel est son rôle dans l'Église de son temps et son importance pour l'Église d'aujourd'hui. Nous avons la chance et le privilège d'accueillir aujourd'hui celui qui sans doute connaît le mieux la personnalité, la vie et l'œuvre de l'abbé Guérin. Je veux parler du père Bernard Dullier, recteur du sanctuaire de Pomain, et auteur d'un merveilleux petit livre « Dieu vous exaucera en peu de temps », paru en 2011 aux éditions Teki, que je recommande chaleureusement à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ce qui serait une grave erreur de leur part. Bonjour mon père. Je vous remercie de bien avoir voulu participer à cette émission. Vous êtes, je le disais à l'instant, le recteur du sanctuaire de Pomain et un admirable connaisseur de l'abbé Michel Guérin. Auriez-vous la gentillesse de raconter à nos auditeurs comment l'abbé Guérin est arrivé à Pomain et dans quelles circonstances?
Ordonné donc à 28 ans, il est nommé à l'extrême bout, vraiment l'extrémité du diocèse du Mans, puisque Laval n'existe pas comme diocèse à ce moment-là. Et l'extrême bout du diocèse, c'est la paroisse, c'est la commune de Saint-Hélier-du-Maine.
Diriez-vous, mon père, que c'était un choix de la part de l'abbé Guérin, que l'on décrit souvent comme un jeune prêtre plutôt brillant, qui aurait pu aspirer à un poste plus prometteur?
Oui. Il aurait sans doute pu accéder très vite à un poste plus important. Je ne sais pas si le fait de venir à Saint-Hélier a été un choix de sa part. Nous savons très peu de choses des premières années de son sacerdoce, puisqu'il arrive à Saint-Hélier en 29 et on n'a pratiquement pas de documents sur les premières années de sacerdoce.
Il y a quelque chose de très troublant, en tant que postulateur, nous en avions parlé tous les deux, c'est que le jeune curé de Saint-Hélier, en fait, a pratiquement le même âge que l'abbé Guérin, ce qui est assez curieux. Ce sont deux jeunes prêtres pratiquement du même âge, dont l'un a une responsabilité sur l'autre. Nous nous sommes demandé même quel pouvait être leur rapport, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Alors, on peut émettre des hypothèses. On peut penser que, et je crois que c'est tout à fait vraisemblable, on se méfiait quand même un peu des vocations tardives à l'époque. Et le fait d'être ordonné si tard n'était pas forcément un signe tout à fait favorable, même si par ailleurs on pensait beaucoup de bien de l'abbé Michel Guérin.
Mais il nous semble, n'est-ce pas mon père, que l'abbé Guérin a eu une vocation légèrement contrariée par des circonstances familiales que l'on qualifierait aujourd'hui de douloureuses, même si à l'époque elles sont relativement ordinaires.
Tout à fait. Alors le fait que cette ordination soit tardive n'est pas dû à une vocation tardive. Il a eu la vocation très tôt, probablement dès l'âge de 14 ans. Mais la situation familiale l'a contraint à rentrer tard au séminaire. Et ça explique qu'il ait été ordonné finalement si tard. Il arrive à Saint-Hélier, eh bien, de Saint-Hélier dépend le hameau de Pomain, qui est loin de Saint-Hélier, 5 kilomètres apparemment, c'est pas très loin, mais quand il n'y a pas de route, quand il n'y a que de très mauvais chemins embourbés pendant plusieurs mois de l'année, cela fait une distance relativement grande.
C'est à tel point d'ailleurs, mon père, que quand on regarde les desservants précédents de Pomain, nous nous rendons compte qu'aucun d'entre eux n'est originaire du diocèse du Mans.
Tout à fait.
Ce sont tous des gens du Cotentin.
Ce sont des gens d'ailleurs qui sont venus là. Pomain, enfin Saint-Hélier, mais surtout la région de Pomain, a très mauvaise réputation. Hein, c'est vraiment un coin perdu du diocèse, un bout de diocèse. Et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de prêtres du diocèse du Mans qui souhaitaient y venir, ou même qui auraient accepté d'y venir.
Et voilà ce qui est tout à fait admirable avec l'abbé Guérin, c'est qu'on lui donne un poste qui n'est peut-être pas celui auquel il aurait pu aspirer. Vous l'avez dit, il y a peut-être une certaine méfiance à son égard. Mais non seulement il va accepter Saint-Hélier, mais en plus, une fois à Saint-Hélier, il va, de son plein gré,
choisir une mission encore plus difficile qui est ce bout du monde pour main et une paroisse qui d'ailleurs n'en est pas une d'un point de vue juridique, mais enfin une paroisse qui est défavorisée dans tous les sens du terme.
Tout à fait, et tout à fait significatif de cette situation défavorisée de cet ailier, il y a le rapport que fait le vicaire général du Mans en 1836, en début de 1836. En effet, les gens de Pontmain souhaitaient avoir un prêtre. Et ils ont fait des démarches, ils ont fait des pétitions auprès de l'évêque du Mans pour pouvoir avoir un prêtre. Et le vicaire général va faire une enquête et va constater qu'il n'y a rien qui marche dans ce hameau. Il leur écrit « Votre église tombe en ruine, et à part la croix et la bannière, vous n'avez pas pour deux sous d'ornement ou d'autres objets. »
La paroisse a énormément souffert de la Révolution.
Elle a énormément souffert de la Révolution, de la désaffectation des prêtres, dont certains sont restés très peu de temps. Et aussi, bon, il faut bien appeler les choses par leur nom, et ça va être un objet de bataille de Michel Guérin pendant des années, du détournement d'un legs que son prédécesseur avait fait pour l'église de Pontmain et qui sera détourné au profit de l'église de Saint-Hélier.
Nous avons là, j'allais dire une des croix, c'est un peu exagéré, mais enfin un des problèmes auxquels l'abbé Guérin va être confronté une bonne partie de sa vie, c'est cette rivalité avec Saint-Hélier, dont il va d'ailleurs très vite chercher à détacher Pontmain, conscient que la cohabitation devient de plus en plus difficile.
Tout à fait. Et donc là, il y avait cette demande des gens de Pontmain. La réponse qui leur est faite, c'est ben, l'église est trop pauvre pour que vous ayez quelqu'un, et en plus vous n'avez pas les moyens de nourrir un prêtre. Et ce qui est assez extraordinaire, et je crois que dans cette vie de Michel Guérin, il va y avoir la conjonction des deux événements, c'est que les gens de Pontmain tiennent tellement à avoir un prêtre qu'ils vont s'organiser pour pouvoir mettre au pot commun des sommes d'argent pour pouvoir nourrir un prêtre. Donc vraiment quelque chose de très fort du côté des gens de Pontmain. Et d'un autre côté, cette découverte que fait Michel Guérin de l'extrême pauvreté de ce hameau, des gens misérables, des âmes à sauver, comme il l'écrira, et pour lui, il n'y a pas une hésitation, sa mission, ça sera d'être auprès de ces gens qu'il va appeler avec beaucoup d'affection, et pas du tout de familiarité, mais un profond respect, mes petites gens.
Il y a quelque chose d'admirable, c'est que l'abbé Guérin va être sur tous les terrains. Il va être un pasteur, un admirable pasteur, on va voir les résultats, mais il va aussi être, j'ai presque envie de dire, une sorte d'assistance sociale, parce que tout est affaire à Pontmain, la misère est grande, et il va s'occuper aussi bien des besoins matériels que des besoins spirituels de sa paroisse.
Ah, tout à fait, ça c'est assez extraordinaire, et j'avoue que ayant un peu étudié la manière dont les prêtres étaient formés au début du XIXe siècle, c'est quelque chose qu'ils n'avaient sûrement pas appris au séminaire.
Ce qui est très intéressant.
Ils n'avaient sûrement pas appris au séminaire qu'il fallait à la fois s'occuper des tâches matérielles et des tâches spirituelles. C'est la découverte de la pauvreté des gens, c'est la découverte de la misère des gens et cet amour profond qu'il avait pour les gens, qui fait que pour lui, il ne pourra pas séparer un développement spirituel d'un développement humain.
Il va s'investir dans cette mission, mais sur tous les terrains, et avec un talent et une audace qui est assez remarquable, parce que quand on y pense, ce petit prêtre d'un village perdu va soulever des montagnes, il va frapper à toutes les portes, ira jusqu'à la reine et jusqu'à l'impératrice Eugénie par la suite.
C'est assez extraordinaire. Comment cet homme, c'est vous le dites tout à fait, comment cet homme n'a reculé devant rien? Bien sûr, il s'est adressé d'abord aux autorités locales, c'est-à-dire le maire de Saint-Hélier, puisque Pontmain n'est pas commune, donc dépend Saint-Hélier. Donc il va se battre, mais littéralement se battre avec le maire de Saint-Hélier pour des questions de justice. Il va écrire une lettre absolument extraordinaire au maire et au conseil municipal, dans lesquels, dans cette lettre, il leur prêche la justice. Et puis, ensuite, il va grimper les échelons, il va s'adresser au sous-préfet, il va bombarder de lettres le sous-préfet, au point que le sous-préfet en avait par-dessus la tête. Et puis, il va aller au préfet, et puis les députés. Il va mettre dans le coup les députés du coin, Et puis, comme vous le disiez, eh bien, lorsque vraiment il n'y a plus d'autre issue possible, il ira jusqu'à la reine et jusqu'à l'impératrice quelques années plus tard. Imaginons ce petit prêtre d'un hameau complètement paumé, complètement perdu, osant écrire à la reine des Français ou osant écrire à l'impératrice.
Alors, ce qui est d'ailleurs très admirable, c'est que l'impératrice Eugénie ne répondra jamais, mais la reine Marie-Amélie et l'une de ses filles, je ne sais plus si c'est la princesse Marie ou la princesse Clémentine, répondront avec une immense gentillesse et feront un don assez conséquent l'une et l'autre à la paroisse.
Tout à fait, parce que il avait su toucher leur cœur. Et quand il n'arrive pas à toucher le cœur, eh bien, il a, et j'aime beaucoup cette astuce de Michel Guéret. Il a des tas de on pourrait dire de roublardises, mais de roublardises pour le bien dans son sac. Quand il veut à tout prix faire désenclaver Pontmain et donc qu'il y ait des chemins, qu'il y ait des chemins empierrés qui mènent jusqu'à Pontmain et qu'il n'arrive pas à obtenir gain de cause du sous-préfet. Il y a un bienheureux incident qui se produit, c'est que le carrosse de l'évêque se renverse quand il vient faire la confirmation à Pontmain. Et Michel Guérin prend sa plus belle plume pour écrire au sous-préfet que ça serait dommage que 4 ans plus tard, quand l'évêque reviendra faire la confirmation, un pareil incident se produise.
Mais je pense à un autre fait, c'est quand il invite le père Leuvenbruck, qui est quand même l'un des plus grands prédicateurs de l'époque.
Voilà, alors ça c'est assez extraordinaire. Moi je n'ai pas réussi encore, alors peut-être réussirez-vous dans vos recherches, à savoir par quel intermédiaire il a d'abord il savait que le père Leuvenbruck existait, mais par quel intermédiaire il a pu le contacter, et surtout comment il a pu obtenir que Leuvenbruck, qui était demandé pour les prédications de carême ou pour les prédications de mission paroissiale dans tous les lieux de France et de Navarre et les lieux les plus importants, comment a-t-il pu décrocher le père Leuvenbruck?
Et ce que je trouve le plus merveilleux dans l'affaire, c'est que le père Leuvenbruck va venir prêcher la mission. Il me semble qu'il a passé une semaine à Pontmain, ce qui n'est pas rien, bénévolement bien entendu,
oui.
Et que l'abbé Guérin a tout de même ensuite la délicieuse audace de lui rappeler qu'il a promis de faire un don à la paroisse et qu'il ne va pas le lâcher, il va le harceler de courrier.
Voilà, tout à fait. Il va lui rappeler qu'il avait promis de donner une couronne pour la statue de la Vierge.
Il ne le lâchera pas avant qu'il ait payé sa dette.
Voilà, c'est ça.
Mais
quand il s'agit du bien de ces petites gens, il sait absolument avoir toutes les audaces possibles et imaginables. Il estime que c'est pour le bien de son village qu'il devrait y avoir des reliques des deux apôtres auxquels la paroisse est consacrée, Saint-Simon et Saint-Jude.
Il va harceler l'archevêché de Toulouse.
Alors il va harceler l'archevêché de Toulouse contre l'avis de son évêque, parce que Monseigneur Bouvier va tenter de le... lui avait déjà dit de ne pas écrire, Michel Guérin a écrit, il a écrit 2-3 lettres, finalement l'archevêque de Toulouse, en ayant par-dessus la tête, écrit à Monseigneur Bouvier, l'évêque du Mans, pour lui dire « Écoutez, de calmer votre prêtre, ça suffit ». Et Michel Guérin va quand même, pour le bien de ces petits gens, continuer à écrire à l'archevêque.
Mais et mon père, nous avons là...
Il va venir de l'archevêque, il va écrire au provincial des jésuites, parce qu'il a appris que les jésuites auraient des reliques de Saint-Simon et Saint-Jude.
Mais c'est très évangélique, mon père, parce que nous avons là très exactement le frappé et l'on vous ouvrira.
Tout à fait.
Et c'est ce que j'aime chez l'abbé Guérin, c'est que bon, il est très mayennais, me direz-vous, il est têtu et obstiné.
Tout à fait.
Mais quand il a décidé d'agir pour le bien, rien ne l'arrête.
Non, absolument rien ne l'arrête. Alors, eh bien, ça sera au niveau social, je dirais que la première réalisation historiquement et qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est l'école.
Hein? Oui.
Bon, qu'on s'imagine quand même que ce petit village de rien du tout va avoir une école. Hein, c'est assez invraisemblable.
Combien y avait-il d'enfants à Poumain à l'époque, mon père?
En comptant les hameaux environnants, il devait y avoir au maximum une vingtaine d'enfants.
C'est d'autant plus extraordinaire qu'il ait trouvé les fonds pour une population scolaire relativement restreinte.
Il savait trouver les fonds. Alors il faut quand même parler de cette figure assez extraordinaire qui est la figure de monsieur et madame, mais surtout madame, Morin du Tertre.
Qui sont les grands bienfaiteurs de Poumain du temps de l'abbé Guérin.
De Poumain, qui étaient des bons bourgeois, dans le bon sens du mot bourgeois de Fougères, qui avaient une maison de campagne ici à Poumain, et qui l'ont, je dirais, soutenu, sans doute de leur présence, de leur encouragement. Je crois que monsieur Morin du Tertre était sans doute devenu un ami de Michel Guérin, et qu'ils l'ont soutenu financièrement. Mais voilà, il y avait les Morin du Tertre, mais il y avait des tas d'autres gens. Il a mis dans le coup beaucoup de gens de Fougères pour l'aider dans la construction de cette école, même s'il a mis dans le coup aussi ses paroissiens, qui ont été pour beaucoup dans l'édification des murs. Et puis ensuite, il a fallu trouver des institutrices. C'est pas le tout d'avoir une école, il faut des institutrices. Et il va écrire à une congrégation religieuse. Et puis voilà. Et puis ensuite, il va essayer, donc ayant eu cette école, il va passer par-dessus la législation. D'ailleurs, on va le lui faire remarquer. Il obtiendra l'autorisation d'ouvrir son école à peu près 5 ans après que l'école ait été ouverte.
Ce ne sont pas le genre de détails qui l'arrêtent. Non, l'abbé Guérin est quelqu'un qui, quand la législation ne lui convient pas, la tourne avec une sorte d'allégresse jubilatoire qui, personnellement, me plaît beaucoup.
Tout à fait. On a l'impression qu'il avait une fausse naïveté.
Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent.
Certainement, extrêmement intelligent. D'ailleurs, on le voit bien, Poumain était un petit village, puis quand Poumain deviendra paroisse, c'était une petite paroisse, mais il avait certainement quelques temps libres de temps en temps, et on voit bien à travers son journal qu'il s'intéressait à beaucoup de choses, bien au-delà du village de Poumain. Il s'intéressait à la géographie, il s'intéressait à l'astronomie, il s'intéressait à... Il note dans son journal des pages entières de journaux qu'il a lus sur des choses très curieuses. Il a une immense curiosité, une grande intelligence et en même temps une extrême proximité avec les pauvres, avec les petites gens, avec les gens humbles.
Et que diriez-vous de sa spiritualité mariale, mon père, pour conclure en une minute?
Eh bien, je dirais que Michel Guérin a eu vraiment une vraie spiritualité mariale. Qui est le mot « à Jésus par Marie », ce n'était pas de la mariolatrie. Sa spiritualité mariale, c'est de regarder la Sainte Vierge qui le conduit au Christ et qui conduit au Christ. Marie conduit au Christ. Et je crois que l'apparition de Poumain est absolument une apparition dans ce sens de la spiritualité mariale. Marie apparaît d'abord, puis va présenter la croix de son fils.
Et elle apparaît parce que Michel Guérin fut toute sa vie son zélé serviteur, comme elle le dira à propos d'un autre prêtre rue du Bac.
Tout à fait.
Merci infiniment, mon père, de ce témoignage.
Merci à vous.
C'était un grand moment de joie de vous avoir.
Merci à vous.
À très bientôt, mon père.
Au revoir.
Au revoir. Alors, nous allons profiter de cette émission pour annoncer la conférence que Christophe de Quatre-Barbes, notaire de la cause, et moi-même allons donner le 19 novembre le 29 novembre, pardon, à la bibliothèque diocésaine de Laval. Mais je vais céder la parole à l'une de nos merveilleuses bibliothécaires qui parlera infiniment mieux que moi de la question.
Merci, Madame Bernet. Donc, je viens de vous entendre avec le Père Dullier et c'est vraiment merveilleux tout ce qu'on a entendu. Donc, nous avons la chance de vous avoir pour une conférence organisée par la bibliothèque diocésaine. Cette conférence aura lieu le samedi 29 novembre à partir de 15h, de 15h à 17h. Elle aura lieu à la maison du diocèse. Et je pense que le thème, c'est donc
La présentation de la vie et de l'œuvre de l'abbé Michel Guérin, une cause de béatification pour notre temps, en quoi parle-t-il au monde d'aujourd'hui et à l'Église d'aujourd'hui? Car une cause de sainte béatification, il faut le rappeler, on n'est pas saint uniquement pour son époque, on est saint pour toute l'histoire de l'Église et pour toute l'éternité. Alors, cette conférence donc aura lieu, vous ne savez peut-être pas encore dans quel endroit précisément, à la bibliothèque
dans une
de
des
Cézanne.
Salles, dans une des salles, parce que dans la bibliothèque, qui est donc toute nouvellement réinstallée, nous ne pouvons accueillir qu'une petite vingtaine de personnes. Donc, nous avons réservé une des deux salles de conférence, la plus petite salle, je pense, mais qui peut accueillir beaucoup plus de monde que dans notre bibliothèque. C'est donc la bibliothèque qui organise la conférence. Merci beaucoup, Madame Bernet.
Non, mais c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités.
Voilà. Et puis alors, surtout, que les personnes qui nous écoutent parlent autour d'elles, à leurs amis, vraiment de cette conférence. Parce que je pense qu'elle peut intéresser vraiment beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut devenir un saint? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Même des personnes hors Église, au niveau culturel, même si on n'est pas dans l'Église, c'est intéressant de savoir comment quelqu'un devient un saint. C'est vraiment
Oui, quelquefois les gens posent des questions bizarres. On a envie de leur dire, vous savez, c'est très sérieux, on ne canonise pas n'importe qui. Auriez-vous la gentillesse de nous rappeler l'adresse précise de la bibliothèque diocésaine? Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas.
Oui, alors, c'est 10 rue d'Avenière, l'entrée, voilà, et à la maison du diocèse. Pour le parking, je pense qu'il faudrait trouver une place sur la salle polyvalente.
Oui, place de RC,
place de RC.
Il y a de la place.
Place de RC, voilà, exactement. Alors donc, surtout passez l'info, parce que ça va être fabuleux d'entendre Anne Bernet nous parler vraiment de comment on peut devenir un saint, et puis voilà, et puis
je pense que Mgr Scherrer nous honorera de sa présence, ce qui est une occasion à ne pas manquer.
Alors
plus.
Encore plus fabuleux, génial.
Bien, merci encore tant à vous qu'au Père Dullier, dont je rappelle le merveilleux livre Dieu vous exaucera en peu de temps, paru aux éditions Tequi en 2011,
que nous avons à la bibliothèque.
Et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.